Tov.
Où est-ce qu'il est, Tobi? On te voit pas. Viens, mon ami.
Shalom, shalom. Et donc, on vient dans notre étude de la parashat à Shavua. Et aujourd'hui, c'est un cas un petit peu particulier parce que parashat Kitissa, d'habitude, alors évidemment, c'est la parashat du veau d'or, bien sûr. Mais c'est également la paracha qu'on va lire de manière générale à Pourim. Eh oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est soit la paracha juste avant, soit juste après Pourim. Mais cette année, comme c'est Pourim Katan, c'est-à-dire qu'on a deux Hadar, donc on ne va pas parler de Pourim encore. Mais...
On pourra manger les gâteaux, quoi.
Bon, toujours. Mais ça veut dire qu'on peut se concentrer sur une autre partie de la paracha qu'on a moins l'habitude d'évoquer, du moins à ce moment-là. C'est la première partie de la paracha. La première partie de la paracha, c'est ce qu'on va lire dans deux Shabbat. Ça, la paracha, on va la lire ce Shabbat. Mais la première partie de la paracha, c'est ce qu'on appelle parachat Shekalim. Et parachat Shekalim, on la lit à l'aube de Rosh Chodesh Adar. Alors, bête, en l'occurrence, ici, cette année. C'est-à-dire, pour nous préparer à Pourim et nous préparer à Pessah. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, on prend le début de la paracha. Vaïdaber Hachem el Moshe l'Emo. Qui? Oui, page 142.
Ah, 142.
Voilà. Vaïdaber Hachem el Moshe l'Emo. Qui tissa et rosh bene Israël l'ifkudehem, venatenu ish kofer nafsho la Hashem l'ifkodotam. Ah, ça y est, Moshe met en place les impôts. Là, en France, ils sont en pleine campagne électorale. Ici, on nous parle toutes les 5 minutes des impôts et de la vie qui augmente et les prix qui augmentent, ce que tu veux. Il est temps de parler Kesef, Kesef. Eh bien, ici, la Torah nous dit, on va mettre en place un impôt. Mais il est très bizarre, cet impôt. Parce que ce n'est pas un impôt sur le revenu, qui va donc dépendre de tes revenus. C'est un impôt égal pour tout le monde. Je ne sais même pas si ça existe, ça, en France, en Israël.
Mais si, tous les produits à TVA, par exemple.
Ah, tu dis la TVA, ouais. Non, ouais, la TVA, c'est la même pour tout le monde. Mais la TVA, c'est pas moi qui dois donner la TVA. C'est les vendeurs qui, dans leur prix, ils incluent la TVA.
Ouais, mais c'est moi qui la paye.
C'est moi qui la paye, mais c'est pas moi qui la donne.
C'est un impôt indirect.
C'est-à-dire, si j'achète pas, je paye pas la TVA. Ou alors, si je vais acheter que à Elat, tu payes pas la TVA non plus?
Ouais, tu rêves.
Je rêve? Quoi, je rêve?
Parce qu'il y a toujours quelque chose.
Ah, il va voir. Tu dis qu'on a réussi à nous... Halloween comme ça? Non, non. Ici, on nous parle d'un impôt que chacun va devoir donner. Pour faire marcher le quoi? C'est ça la question. Il est. Ve'adenu ishko fer nafsho la Hashem bifkodota ve'lo yebem negev bifkodota. D'abord, cet impôt, il sert à quoi?
C'est pour compter
pour les compter. D'abord, l'ifkod otam. C'est d'abord pour les compter.
Voilà.
Et donc, il n'y aura pas de negef, il n'y aura pas d'attaque lorsqu'ils seront comptés. Ma si pour. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une attaque si on compte les gens?
Pour une attaque. Épidémie.
Oui, une attaque, je veux dire, pas forcément militaire. Negev, Negev, ce n'est pas forcément non plus un virus. Negev, ça veut dire que tu seras mis en danger. D'accord? Ça peut être un virus, ça peut être une armée, l'origine. Pourquoi est-ce que je risque d'être mis en danger si je compte? Bah, pour une raison très simple. Tu peux me compter, moi? Moi, je suis quelqu'un qui est décomptable. Moi, je suis réduit à un numéro. Non, Quoi ? Si on te dit, toi, tu es le numéro 782 248. Non. Non, je suis Ethan. Je ne suis pas 740 248. Donc, si tu veux réduire l'homme à un numéro, c'est quoi ? C'est faire passer l'homme de la qualité de « mi » à « ma ».
Mais aujourd'hui, alors, on a un numéro. N'importe quoi, c'est un numéro. On est tous un numéro. Un numéro, tu ne peux rien faire. Excuse-moi.
Eh bien, je t'excuse. Mais je ne vais rappeler que mon cas personnel. D'ailleurs, après, tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais moi, je me suis déjà pris plusieurs fois des punitions à l'armée de Shabbat parce que j'étais chutzpan. Je désobéissais aux ordres lorsqu'on me disait « Quel est ton misparichi ? Quel est ton numéro individuel ?» Vous savez, chaque soldat, il reçoit un numéro. C'est ce qui a marqué sur ses plaques. Et je leur disais, elle est misparichi. Il dit, comment ça ? T'as pas de numéro ? Il dit, non, j'ai pas de numéro. Moi, Ethan Fison. Ethan Fison, l'eau misparichi. Il dit, tu veux pas me.
פוסק כמו הרב ישראלי שפסק כמו החזון איש, שמותר.
טוב, נו נו, תודה רבה הרב. ואיפה הרבנים הספרדים בסיפור? זה בעיה. בקיצור, אוקיי, רובי ענות היסטואר. אני איתן פיזון, אני לא 619-6625. זה סמו מספר אישי. עכשיו שלא קונה זה. ג'י נו, אני איתן פיזון. Ma grand-mère, on lui a mis un numéro sur le bras à Auschwitz. Moi, je ne suis pas un numéro. Alors, tu me dis, mais t'as ta Teoudat Zehout, tu la donnes tout le temps. À chaque fois qu'on me demande ma Teoudat Zehout, que ce soit au Misradap, ni machin, je leur dis, Ethan Fison. Ils disent, oui, mais pour l'ordinateur, j'ai besoin de votre numéro. Ça, je leur donne. Donc, je suis d'accord avec toi que pour des raisons informatiques, parce qu'il peut y avoir deux Ethan Fison.
Oui, mais ici, pour le contraire. Teoudat Zehout, et après, il te dit. Et votre nom.
Alors, c'est à toi de leur dire. Non, c'est d'abord mon nom et après, c'est votre nom. Donc, Bekitsu, si je suis un numéro, je suis ma, je ne suis pas mi. Je suis quelque chose ou je suis quelqu'un. C'est toute la différence, Rabotai. Donc, ici, on nous dit, tu vas donner un impôt, tu vas donner quelque chose pour qu'on puisse te compter. Parce que toi, on ne peut pas te compter. Ok ? Agave, moi j'ai une neshama. Ma neshama, elle est infinie. Elle n'est pas numéricable. Elle est infinie. Donc, Veloy Negev Bifkodotam. Zeyitenu. Moi, c'est Zeyitenu. Nous dit Moshe, nous dit Rashi, c'est que Moshe a eu du mal à comprendre. Rashi te dit Zeyitenu. הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואמר לו כזה ייתנו. זה הפיפרתי לפועה ומשה אלא ידימה לקומחון. איך? למה? פקו משה אלא ידימה לקומחון? פסקו כסקי פודנה, רגע, כל העובר על הפקודים מחצית השקל או השקל בשקל הקודש. פודנה, פודנה כבר? Un demi-cycle d'argent. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre ? Parce que c'était un demi-cycle. Moshe, il n'arrive pas à intégrer les moitiés de choses, ou les choses pas complètes. Moshe ou Shalem ? Moshe, il est entier. Et donc pour Moshe, ça n'existe pas un demi. C'est comme quand Dieu lui avait dit, pour Rosh Chodesh, qu'il lui avait montré la lune, Bechidusha, il avait marqué Itkasha Moshe. Il dit, moi, je sais comment on fait Kadosh quand c'est Shalem, quand c'est rond, mais pas quand c'est moitié. C'est-à-dire ? Donc ici, Akadosh Baruch Hu lui apprend la dimension de la Ishtalmut. tout n'est pas que Shlemut. Il y a ici également la Ishtalmut, comme dit le Rav Kook. Il y a donc la perfection et il y a également le perfectionnement. D'accord ? Alors, ok. Zeitenu kol haover al hapikudim machatzit ha-shekel b'shekel ha-kodesh. Esrim gera ha-shekel, machatzit ha-shekel teruma la-shem. Et donc, qui doit donner ce demi-cycle d'argent ? Qui coûte combien d'ailleurs ? Kama ze machatzit ha-shekel ? Aujourd'hui, on dit, ouais, plus ou moins 20 shekels. Plus ou moins 20 shekels. Est-ce que c'est faisable, à votre avis, pour tout le monde ? Oui. Et c'est pour ça qu'on nous dit, « Kol ha'over ala pekudim mi ben esrim shana v'amala, yiten terumat Hashem, et ashir lo yarbe, v'adal lo yamit. » Il n'y a pas de possibilité pour les riches de se la péter et de donner plus, et il n'y a pas non plus de anachot, il n'y a pas non plus de... comment on dit en français, de réduction pour les pauvres. Donc c'est un impôt très particulier parce que tout le monde donne la même chose. Pour dire quoi ? Pour dire que quelque part, on est tous égaux. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu as une maison à 7 étages et que moi, je vis dans une tente, mais on est égaux. À quel niveau on est égaux ? Dans notre appartenance au peuple juif, on est égaux. Dans notre relation à Dieu, on est égaux également. Parce que la question se pose maintenant, mais à quoi ils servent ces machatziot shekel ? Ça sert à quoi ? On va faire quoi avec ? Zetrouma la Hashem. Ma osim. Ils vont servir à quoi ? ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. Donc à quoi vous servir cet argent là?
Le service.
À acheter quoi? Alors, nous dit ici Rashi, הנה, על עבודת אוהל מועד. On dit qu'il y a eu trois choses. Il y a trois choses qui vont servir à... enfin, qui vont être utilisées avec machatzit à shekel. Hein ?
C'est pour le socle.
Alors, c'est pour les socles du Mizbeach. Pas du Mizbeach, du Mishkan, c'est pour les adanim chez la Mishkan, qui sont faits en argent. Les socles sur lesquels on met les poutres qui vont permettre de tenir le Mishkan. On va également donner Echad Trumata Adanim, Vechad, Vacheniti al. C'est quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Attends, où est-ce que c'est marqué ? Je vais te dire exactement. Voilà. Vachenit, les korbanot à Tzibour. C'est aussi avec ça qu'on va acheter tous les korbanot de l'année. Mais pas les korbanot que toi et moi on doit amener parce qu'on a fait une faute. Korban Tzibou. Ok ? Korban Tamid, Shel Shacha, Tamid Shel Ben Arbaim. Hein ?
Les Korbanot Tamid.
C'est les Korbanot Tamid, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres Korbanot Tzibou que Tamid pendant les fêtes. Mais Korbanot Tzibou. Ve'ashlishit, Trumat Amishkan. C'est ce qui va aller également à la construction du Mishkan qu'on va faire en argent. Mais donc ça veut dire que ce Machatzit HaShekel, que moi je vais donner, va servir à quoi ? À régler la relation de tout Israël avec Dieu. Et par l'intermédiaire du Mishkan et par l'intermédiaire des Korbanot. Parce que là, les Adanim, ça marche pour le Mishkan. Mais quand on sera au Beth Amikdash, il n'y a plus de Adanim. Donc, ben, ça servira aux Korbanot Tzibour uniquement. Donc, ça veut dire que moi, mon Machatzit HaShekel sert à la bonne relation de tout le peuple juif avec Dieu.
Tout le monde a participé, les gouvernements.
Ouais. Tout le monde a participé. Si jamais il y a un riche juif tzadik qui veut, je sais pas moi, il veut faire Laurent Lévy. Voilà. Il est fan du Beth Amikdash, il veut construire le Beth Amikdash et il dit, moi, je fais un chèque et je fournis les korbanot pour les 5 premières années du Beth Amikdash. Assou ? Assou ? Korbanot Tzibour. C'est pas un homme qui peut les donner, très gentiment d'ailleurs, mais il peut pas. Maintenant, au-delà de ça, nous pose la question, la Gemara, hein, dans le traité de Megillah. Lama, on dit Parashat Shkalim avant Purim. J'ai très bien compris l'idée dans la paracha. Et j'ai compris aussi pourquoi on doit dire Parashat Shkalim avant Pessah. Pourquoi on doit dire avant Pessah ? Pour prévenir les Juifs de ne pas oublier, quand ils vont arriver à Pessah au Beit HaMikdash, d'amener leur machatzit à shekel. Puisque c'est un impôt qu'ils doivent donner une fois par an, ils vont arriver à Pessah au Beit HaMikdash, bah qu'ils n'oublient pas le machatzit à shekel. Donc, avant Pessah, il faut rappeler à tout le monde qu'il y a cette mitzvah de machatzit à shekel. Donc, c'est tout à fait compréhensible pourquoi on rappelle cette paracha-là avant Pessah. La Shéla, c'est pourquoi on la rappelle avant Pourim. On aurait très bien pu dire on fait Pourim et la paracha d'après, vous savez, dans les quatre parachiotes. On aurait très bien pu dire que paracha Shkalim, on l'a dit après Pourim. Ouais ? Si c'est pour prévenir les gens de venir. Hein ? Non, tu as raison. À l'époque de la Torah, quand on parle parachat Shkalim, il n'y a pas encore Pourim. C'est Nachon, tu as raison. Mais lorsqu'on va mettre en place les Arba Parashiot, c'est-à-dire, ces Arba Parashiot sont là pour préparer à Pessah. Moi, j'entends bien. Mais pourquoi parachat Shkalim, ils ont décidé de la mettre également avant Pourim ? Que tu me dis parachat Zachor avant Pourim, je comprends. Zachor Asher Asa Lecha Amalek, juste avant Pourim, c'est logique. Mais pourquoi tu me dis Parashat Shkalim également avant Pourim ? Si c'est pour annoncer aux gens d'amener leur Shkalim au Beit HaMikdash, tu peux le dire après Pourim. D'accord ? Regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe que tu vas dire Parashat Shkalim, à Rosh Chodesh Adar Bet. Ensuite, tu vas dire Parashat Zachor avant Pourim. Ensuite, après Pourim, tu vas dire Parashat Parah Aduma. Et juste avant Rosh Chodesh Nissan, tu vas dire Parashat HaChodesh. Alors, Parashat HaChodesh, je comprends pourquoi c'est Rosh Chodesh Nissan. On te dit HaChodesh HaZelachem, Rosh Chodeshim, c'est la Parashat qui parle de Rosh Chodesh Nissan. Donc, très bien. Parashat Para, c'est pour nous expliquer qu'il faut être pur pour pouvoir aller au Beit HaMikdash. Bon, je comprends que ce soit entre Pourim et Pessah. Mais il reste une semaine où on ne lit rien. Entre Pourim, entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah. Alors, des fois, ça tombe Shabbat Agadol, mais des fois, non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis là-bas Parashat Shkalim ? Parashat Shkalim, on l'a mis avant Pourim. Lama. Dis le Rav Kook, dans Midbar Shu. Parce que avant Pourim, c'est là qu'on va devoir expliquer quel est le remède à Pourim. À Pourim, il y a un homme qui veut tuer les Juifs. Vous connaissez ? Aman. Et Aman, il veut tuer les Juifs et il sait que ça va être difficile de convaincre Achashverosh. Pourquoi ça va être difficile de le convaincre ? Quel est son problème à Achashverosh ? Pourquoi Achashverosh... Il sera difficile à convaincre à tuer les Juifs. Arrête, c'est pas un philosémite. Ok, Achashverosh, il n'aime pas les Juifs autant que Aman, il n'aime pas les Juifs. Aval, qu'est-ce qu'il a comme problème à Achashverosh ? Assuérus. Tu veux tuer tous les Juifs ? Mais tu sais combien il me rapporte, les Juifs ? Attends, il a même fait un discours à Achashverosh où il a dit la Perse. Sans les Juifs de Perse, c'est plus la Perse. Ah non, c'est pas. Ah, c'est peut-être
un autre qui a dit ça. Sans les Juifs, c'est pas la France. C'est l'ancien Premier ministre.
Manuel Valls, si tu nous entends. Hein, avec les bêtises que tu as pu dire chez la Briouze. La France sans les Juifs de France, ce sera toujours la France. Et les Juifs de France, ils n'ont rien à faire en France. Donc, Yé Besséder, t'inquiète pas, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, Achashverosh, il dit, attends, mais les Juifs, c'est un business de ouf. Attends, tous les marchands et tout ça, c'est les Juifs. si tu me tues les juifs, tu sais quel va être le manque à gagner ? Et donc Haman, il vient avec une proposition. Il dit, je paye. C'est-à-dire, je couvre le manque à gagner de la destruction des juifs. Ah, je suis très très riche, je paye. Et puis tu sais, quand les juifs vont mourir, on pourra aussi utiliser leurs biens. On aura des intérêts. Et combien il va payer Haman ? Aseret alafim kikar kesef leose eshkol leose amelacha. Kamaze aseret alafim kikar kesef. Combien ça fait ? Ça fait beaucoup d'argent, mais le Rav Kook fait un calcul. Et il dit aseret alafim kikar kesef. Quand tu sais combien c'est un kikar kesef, je ne me rappelle plus de la somme exacte, il dit. C'est exactement Machatzit à Shekel fois 600 000. Donc en fait, tu as compris que Haman, quand il propose,
il
connaît très bien l'histoire et il sait qu'est-ce qu'il veut proposer. Il dit, je vais racheter tous les juifs en fait. Machatzit à Shekel fois 600 000. Même si à l'époque de Haman, on n'est plus 600 000, c'est symbolique. Et donc le Rav Kook qui dit, pourquoi est-ce que nous on va dire la paracha de Machatzit HaShekel avant Purim que de l'agdim shiklenu l'eshkalav pour précéder, faire précéder nos shkalim à nous à ses shkalim à lui. Et nos shkalim à nous, Machatzit HaShekel, on a dit, sont là pour nous mettre bien dans la tête qu'on est un seul peuple. Que le Machatzit HaShekel, il sert au Korbanot Tzibur, il sert à construire le Mishkan. C'est-à-dire qu'on est unis autour de cet impôt-là. Et ça montre l'unité du clan Israël, cet impôt-là. Qu'est-ce qui est la seule chose qui peut nous sauver de Haman ? C'est l'er kenos et kol ha-yehudim asher b'shushan. En d'autres termes, pourquoi c'est important de dire cette paracha-là avant, pas seulement Pessah, mais avant même Pourim, c'est pour comprendre que le remède à Pourim, c'est Machatzit HaShekel. Alors c'est vrai, il y a des rabbins qui vont dire non, mais techniquement on le dit un mois et demi avant Pessah, parce que les gens, des fois, ils viennent de très loin. C'est-à-dire, fair enough. Mais au niveau de la profondeur de la chose, c'est parce que Machatzit HaShekel, avant d'être ce qu'on va amener à Pessah, est le protecteur contre Pourri. C'est-à-dire, la notion d'appartenance à l'identité collective d'Israël, eh bien, c'est ce qui peut nous préserver de toute attaque extérieure. Et c'est la raison pour laquelle on commence la paracha du Vaudor avec cette paracha de Machatzit HaShekel. La paracha du Vaudor, la paracha où on aurait pu penser qu'on n'est pas tous ensemble. La paracha où on aurait pu penser qu'il y en a qui ont fauté, il y en a qui n'ont pas fauté. Et où Moshe Rabbeinu va devoir prendre fait et cause pour tout le clan Israël. Ensemble. La paracha continue en nous disant Ve'asita kior nechoshet ve'kanon nechoshet le'orsa ve'natata oto ben'oel moed u ben'amizbeh ve'natata shama maim ve'achatzu aharon u banav mimenu et yedeev ve'et regleem bevoam el'oel moed yechatzu maim ve'lo yamutu o begishtam el'amizbeh le'sharet le'aktir ishel Hashem ve'achatzu yedeev ve'regleem ve'lo yamutu. והייתה להם חוק קולם לא לזרוח לדורותם. מה זה? הכיור. פורקו נפה בבדון שחזה? פורקו את כדי כהנים יזרו בזמן צאו להביא לפי אלימה ואום כמו עושה לעבודה?
פוריפייה.
אה, זה פוריפייה. מה? זה בניחווה, זה פוריפייה.
זה בואו
סולבי. לא, זה פוריפה לדוש. C'est pas la douche, c'est juste les mains et les pieds. Il n'y a pas des douches au Beth Amikdash.
entrée au Al-Moued, entrée-sortir, donc il y avait une sorte de mérissa qui permet.
Et pourquoi? Non, mais là, la mérissa, c'est autre chose. Là, ils doivent se laver pour se purifier. Comme nous, on fait une tête d'ail. Chez la lame. Parce que tu vas t'occuper maintenant de Kedusha. Pour s'occuper de Kedusha, il te faut de la Tahara. Tahara, ça veut dire la connexion avec la vie. L'eau, c'est la vie. Donc c'est la connexion avec la vie, la Tahara, la pureté. Et bien, pourquoi est-ce qu'on t'a parlé de Kior maintenant, juste après Machatzit HaShekel? Pour que tu comprennes que la connexion avec la vie, c'est la connexion avec le peuple juif. Se laver les mains, se laver les pieds, c'est la Tahara. C'est quoi? Ça représente quoi la Tahara dans le judaïsme? C'est la connexion avec la vitalité. L'impureté, c'est quand tu as été en contact avec un manque de vie. Donc tu te remets de l'eau qui est la vie dans ce monde. Tu ne peux pas vivre sans eau. Donc l'eau, c'est la vie. Tu te mets de l'eau sur les pieds et sur les mains, c'est-à-dire sur ce qui va te permettre d'avancer et ce qui va te permettre d'agir, pour que tu sois connecté à la vie. C'est quoi la connexion à la vie par excellence? C'est la connexion au peuple juif.
Et si tu parles de vie, on pourrait peut-être parler de Mikvé d'abord.
Alors, tu as raison que le Kohen Gadol, lui, il doit aller se tremper au Mikvé quand il va faire certaines choses de son travail. D'accord, c'est une dimension encore au-dessus. Mais on ne demande pas ça à tous les Kohen. D'accord? Hein? Il n'y a que le Kohen Gadol systématiquement. Le Kohen, il peut aller se tremper au Mikvé si jamais il a besoin. C'est-à-dire, c'est par exemple, si pendant la nuit, il a fait un petit rêve olé olé, et qu'il doit changer les draps le matin, il doit aussi aller au Mikvé avant d'aller au Beit HaMikdash. C'est-à-dire? Mais ça, c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas toujours. Mais se laver les mains et les pieds, oui. Et donc, ça veut dire que la connexion à la vitalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la connexion à Israël. C'est-à-dire? Et là,
c'est quoi la symbolique
de
purifier bon, sa main gauche et son pied gauche avec sa main droite et ensuite derrière. Quelle est la symbolique de ça?
Comme tu le sais, la gauche, Zemidat Adin, la droite, Zemidat Chesed.
Dans les deux.
Hein?
Oui. Ok.
Là, c'est Chesed, là, c'est Din. C'est pour ça qu'on te dit toujours que Leolam yeh Smol Docha veYamin Mekareret. C'est-à-dire que on te dit, bon, alors ça, c'est dans un cas général où les gens sont de manière générale droitiers. C'est-à-dire, ça ne marche pas pour moi, tu suis gaucher.
Moi non plus.
Voilà. Mais c'est un cas général, c'est une idée. Que la main droite est la plus forte, la main gauche est la plus faible. Et donc on te dit, la gauche c'est le din. Il ne faut pas que ce soit ça le plus fort dans ta vie. Avec la main gauche, tu repousses. Mais il faut que tu aies une main droite plus forte qui ramène. Et donc, c'est avec le chesed que je vais mettre sur le din. Mais je ne veux pas être que ramoud. Il faut aussi qu'avec le din, je mette un peu sur le chesed. D'accord? Maintenant, une fois que je suis connecté à l'identité collective d'Israël, que j'ai compris que la vie, elle me vient de ça, de cette force-là. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Quand une histoire, le Baal Shem Tov, un jour, il faisait très très chaud à Mejibouj. C'est en été. Le Baal Shem Tov, il a commencé la tefila, il est devenu le Chazan. Et les gens, ils vont dire, il va voir, c'est Shabbat. Et on sait que le Baal Shem Tov, il prie la Amida, chez lui, ça dure de 1h30. On va avoir très chaud, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire avant la fin. Alors ils ont dit, bon, on va faire entre nous, on va le laisser prier, on va sortir après la Amida, on va faire kidouche, on va faire un petit, on va manger un peu et tout. On a le temps, de toute façon, on pourra revenir dans 1 heure, il sera toujours en train de faire la Amida. Donc les mecs, ils font ça, ils sortent après la Amida, ils font kidouche, ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ils rentrent dans la synagogue, ils s'attendent à voir le Baal Shem Tov en train de comme ça, et non, pas du tout, il est assis, il les attend. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quoi? Vous croyez que je m'élève dans les mondes supérieurs avec ma Amida tout seul? C'est grâce à vous, grâce au Minyan. Vous êtes parti, je suis tombé. C'est pas moi. Donc une fois que tu as compris que tu étais connecté à l'entièreté du Ham Israël et que c'est ça qui te donne la vitalité, alors qu'est-ce qu'on te dit? Vaïdaber, Hachem, El Moshe, El Emor. ואתה קח לך בסמים ראש מורדרו 500 וקינמון בוסם מחציתו 50 200 וקנה בוסם 5200 וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית טעים ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה ומשכת בו את אוהל מועד ואת הארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת המזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו וקידשת אותם והיו קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש. Là, il faut faire quoi maintenant? Shemen la mishra. L'onction. On va mettre sur tous les ustensiles et sur Aaron et les Kohanim. Là, Mama Kesher Akshav, si tu as compris que tu ne peux pas te détacher de l'identité collective d'Israël, si tu as compris que c'est ça qui te rattache à la vie, alors je vais te donner un moyen mnémotechnique de te rappeler. On va mettre de l'huile dessus. Parce que l'huile, ça ne se mélange pas avec les autres. Il y a une particularité dans l'huile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des communautés qui ont le minhag à Hanouka de l'allumer avec de l'huile, mais de mettre de l'eau dans le truc d'huile pour montrer la séparation.
Oui, on faisait ça, ma mère faisait ça.
Tu vois ? Montrer la séparation qu'il y a entre le peuple juif et le reste du monde. וקידשת אותם קודש קודש והיו קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לדורותיכם על בשר אדם לא יסח ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קודש הוא קודש יהיה לכם איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחת מעמיו תפל דרוע דפר ספר וילה פורטי ta consommation personnelle. Parce que c'est tourné vers la collectivité d'Israël. C'est tout. Ok, j'ai compris que Am Israël, tu ne peux pas le séparer. J'ai compris que c'est cette unité-là qui donne la vie. Et j'ai compris qu'il faut préserver cette vitalité-là en la séparant du reste. ויאמר השם למשה קח לך סמים נטף ושחלד וחלבנה סמים לבונה זכה בד בבד יהיה ועשית אותה כתורת רוקח מעשה רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעד לך שמה קודש קודשים תהיה לכם והכתורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך להשם איש אשר יעשה כמוה להריח בה וניחת מאף. אוקיי. דרנר שוז זה מטרמפלס לקטור. פסקי זה בין בו דבר די כלידנטיטי קולקטיב ישראל היא תרמפלסה. כזה אל כמקונקט אבק לוי וכדונק אל נפה מלנג'ה אבק כמו כסוסוה. מילה קושייה כשפודוני סקווה, פרטיקולרמן הפרשת קיטיסה, הוא רם פרלי דז'ן כיפות. Peut-être que si tu as fauté, tu n'es plus rattaché à tout ça. Peut-être que si tu as fauté, on te dégage. La Ketoret, elle est formée de combien d'éléments? Combien d'encens, d'épices différentes qu'il y a dans la Ketoret? 11. Lama. Lama 11. Les 11 font référence à quoi? Dans la tradition juive, Achad Asar, on dit dans Echad Mi Yodea de Pesach, Achad Asar, Korvaya, les 11 étoiles du rêve de Yaakov, de Yosef, c'est ça, du rêve de Yosef. Alors c'est quoi les 11 étoiles dans le rêve de Yosef? Yosef, il rêve que la lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se posent devant lui. Alors soleil, la lune, c'est son père, sa mère. C'est quoi les 11 étoiles? Ses frères. Lorsque les frères entendent ce rêve, ils sont contents ou pas contents? Pas contents, sauf un. Réhouven est très heureux. Parce que ce rêve intervient juste après le moment où il a fauté avec la femme de son père. Avec Bila. Et voilà, il pensait qu'à cause de sa faute, peut-être qu'il n'était plus compté dans le peuple juif. Et il voit qu'il y a 11 étoiles, que donc il en fait partie. Il comprend à ce moment-là que Afalpi Shechata Israël Hu, que bien qu'il ait fauté, il reste membre à part entière du peuple juif. Quelqu'un disait tout à l'heure, tu ne peux pas te convertir dans le judaïsme. Tu ne peux pas te convertir à quelque chose d'autre. Tu restes juif. La Ktoret, elle a 11 épices différentes pour nous rappeler cela. Et d'ailleurs, parmi ces 11 épices, il y en a une, c'est la Chelbena. Chelbena, en français, je crois qu'on dit galbadium. Mais ça pue. Ça sent pas bon. Ah ! Donc nous dit le tour, Ken, bah la tourim, que la Chelbena, c'est Keneged Arechaim. Ça fait référence au Rechaim. T'aurais pu penser qu'il faut l'enlever. C'est pour ça que la Braïta nous dit Veim Chissar Echad Mikol Samamena Chayav Mida. Pourquoi tu aurais pensé d'en enlever hein? Parce que la Chelbena, je voulais l'enlever. Non. Et quand tu la mélanges aux autres, ça donne encore une meilleure odeur au reste. En d'autres termes, tu as besoin de faire comprendre à tout le monde que même s'il faute, il reste partie intégrante du peuple juif. Et c'est exactement ce que va comprendre Moshe dans toute la suite de la paracha, qui est la faute du veau d'or. Où Moshe va prendre conscience et va plaider envers Akadosh Baruch Hu que ce peuple juif-là, on ne peut pas le disloquer, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le mélanger à d'autres et on ne peut pas s'en séparer. Voilà pourquoi la paracha de Kitissa, qui nous parle de la faute, fait ses quatre introductions. Machatzit HaShekel, נטילת ידיים ורגליים, שמן המשחה והקטורת. Une fois qu'on a dit ça, on est bon. On est bon et on peut lancer effectivement l'histoire du veau d'or. Mais ça, c'est ce qu'on verra peut-être une prochaine fois. Chazak ou Balzac.